Voilà, je me réjouis d'être au milieu de vous, de partager ces moments de prière, de culte, de chant, partager le pain et le vin. J'aime beaucoup le peuple de Dieu et je me réjouis d'être avec vous ce matin. Vous savez, parfois, vous avez peut-être participé à certains séminaires ou à certains exercices où on vous demande de... On vous dit, voilà, on va prononcer un mot, et puis il y a quelque chose qui viendra immédiatement dans votre esprit. Alors, je vais faire l'exercice avec vous. Il va durer 30 secondes, rassurez-vous. Mais si on dit, quand vous pensez à votre avenir, vous pensez à quoi? Votre avenir. Qu'est-ce qui est venu dans votre tête en premier? J'écoute nos deux personnes. Pardon? La retraite. Oui, 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 la retraite. Oui. Tu l'attends, hein? Le royaume de Dieu. L'éternité. Là. La vie éternelle. C'est très spirituel, je vous félicite, c'est très bien.
Le Seigneur va venir nous chercher.
Oui, le Seigneur va venir nous chercher, c'est vrai, oui, vous avez raison. Pardon? Oui, aussi. Oui, c'est vrai tout cela. Mais dites-moi, personne ne pense à la vieillesse? Personne ne pense au monde qui pourrait arriver. On y pense le moins possible. Mais je pense quand même, voyez, des fois, le tintébin, n'est-ce pas? C'est, je ne sais pas si vous savez ce qu'est le tintébin. Non, le déambulateur, vous savez, on l'appelle des fois le tintébin, ça vient de mon cher patois de la Gruyère, qui veut dire « tiens-toi bien », le tintébin, voilà. Oui, voyez, honnêtement, quand on pense à notre avenir, c'est vrai que comme chrétiens, nous avons cette perspective du royaume des cieux, mais, alors c'est vrai qu'on peut y arriver aujourd'hui. C'est vrai, ça peut nous arriver subitement de quitter cette terre, mais c'est vrai qu'il y a aussi les jours qui passent, il y a aussi notre vie terrestre, il y a aussi la condition de notre vie terrestre, et parfois on se dit, on n'aimerait pas être handicapé, on n'aimerait pas perdre la mémoire, on n'aimerait pas perdre la vue, on aimerait l'ouïe, on aimerait, si possible, pas forcément mourir en bonne santé, c'est un peu compliqué, mais on aimerait quand même pas devoir vivre des fois les choses qui sont difficiles, qui font partie de la terre. Or, oui, dans ce que vous avez évoqué, il y a ce que j'évoque avec vous, il y a les choses incertaines. Donc personne ici peut dire exactement ce qu'il attend dans sa vie. C'est pas possible. Il y a certaines suppositions. Une chose est sûre, c'est qu'on vieillit. Bon, alors là, ça, comme un ami me disait, qui rentrait d'une visite chez le médecin, il me dit, oh, le médecin m'a dit, enfin, j'ai une maladie vraiment... mortel. Je dis, oh là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la vieillesse. Eh bien oui, c'est une maladie mortelle, c'est vrai, et qui nous attend tous. Mais tout cela fait partie de l'incertain. Par contre, ce que vous avez dit, le royaume des cieux, le Seigneur qui vient enlever son Église, tout cela, alors, oui, ça fait partie des choses certaines. Donc voyez déjà, comme on peut, je dirais, modifier aussi sa pensée par rapport à l'avenir, soit la fixer sur l'incertain qui peut arriver, ou bien faire partie vraiment de ceux qui disent « mais je veux d'abord privilégier ce qui est certain, je veux le mettre en premier ». Maintenant, si on fait un pas de plus, non pas forcément par rapport à notre avenir, mais dites-moi, quels sont les grands problèmes de notre monde? Parce que c'est présent, c'est à venir. Quelles sont les grandes difficultés de notre société, de notre monde actuel? Je vous écoute. Pardon, parlez plus fort. L'argent. Oui, c'est vrai que les finances, hein, on en parle, c'est vrai. Oui, c'est vrai, on en parle beaucoup, c'est vrai.
Le manque de compassion.
Le manque de compassion. Oui, c'est vrai. Mais les grands problèmes internationaux, dites-moi, les amis, c'est quoi? Tous les jours, à la télévision, sur les journaux, c'est le terrorisme. Alors, voilà. Terrorisme, on en parle tous les jours, hélas, il y a bientôt un attentat par jour, et puis l'islam qui prend beaucoup de place, Daesh qui est là, c'est vrai que c'est une réalité de notre monde, on en parle presque tous les jours, il y a bientôt tous les jours un problème dans notre Europe, sans compter ailleurs dans le monde. La question écologique revient toujours. La dégradation du climat, les changements, la pollution atmosphérique, effectivement. Et puis, il faut le dire, il n'y a pas que Daesh, il n'y a pas que la question du terrorisme, il y a la question des guerres, et puis la question des fléaux aussi, tels que des maladies. Il y a constamment de nouvelles maladies qu'on appelle orphelines. Il y a aussi, je dirais, toutes les épidémies qui sont là, bien sûr, la grippe aviaire, mais tant de choses qui sont là. Alors, on dirait, oh, mais c'est quand même pas trop bien qu'on ait dû se lever une heure plus tôt pour entendre ce qu'on entend finalement tous les jours à la télévision, à la radio. Alors, je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi je vais vous donner ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ces grands fléaux. Quelles sont les perspectives bibliques? Vous voyez, comme avant, on a dit, voilà, il y a une perspective personnelle par rapport à l'avenir qui est à la fois le royaume, l'enlèvement de l'Église, mais il y a aussi une réalité personnelle, il y a aussi une réalité, forcément, quand les années passent un peu, eh bien voilà, on n'est plus forcément autant en forme qu'étant plus jeune, c'est une réalité. Maintenant, on a vu, voilà, il y a l'incertain, il y a le certain. Maintenant, dans ce que je viens d'évoquer avec vous, de ces grands fléaux qui sont là sur notre monde, et ce sont des réalités, par exemple, l'écologie, quand il est question dans l'Apocalypse, en particulier Apocalypse 7, quand il y a les sept coupes qui sont versées, c'est vrai qu'il est question du tiers des arbres qui seront touchés, le tiers des eaux qui seront touchées. Et ce sont des réalités qui sont là sous nos yeux, décrites par la parole de Dieu depuis plus de 2000 ans. Mais je veux venir maintenant à ce que la parole de Dieu nous dit pour que nous puissions, je dirais, espérer, avoir en nous, au-delà de ces nouvelles, au-delà de la réalité, quelle est la perspective du Seigneur et qu'est-ce qui réellement nous attend. Alors, si on prend, par exemple, la question de l'islam, parce que c'est une réalité. D'ailleurs, quand la Bible nous dit qu'il y aura un jour le roi du sud contre le roi du nord, on peut se poser la question si c'est pas lié aussi à la montée en puissance de l'islam, ce qui est alors lié au terrorisme aussi, mais c'est juste effrayant. Je viens de recevoir, je suis beaucoup allé et souvent en Afrique, et je connais vraiment bien l'Afrique, mais en particulier subsaharienne, eh bien je reçois des nouvelles effrayantes. Au Burkina, par exemple, où travaille notre ami Rémi Moret, entre autres, eh bien ils ont ouvert des écoles depuis des années dans le nord du Burkina, et très récemment, Al-Qaïda est allé menacer les instituteurs et institutrices chrétiennes ou d'autres en disant « Vous devez enseigner le Coran et parler en arabe. Si vous ne le faites pas immédiatement, on va vous tuer. » Et ils ont commencé de tuer des gens. Et donc, ils ont fui maintenant, les écoles sont désertées. Évidemment, on n'en parle pas parce qu'il y a tellement d'autres problèmes. Mais là où on va au Mali, jusqu'à présent, dans le sud du Mali, c'était encore relativement tranquille, relativement tranquille. Mais maintenant, il y a des cellules qui se mettent en place, de grandes cellules qui se lient à Boko Haram, parce qu'eux, ils font allégeance à Daesh et ils veulent combattre ce qu'on appelle ACMI, c'est-à-dire c'est des combats entre eux, mais finalement il y a cet islam qui est en train de monter. Or, quand on dit islam, j'aimerais lire avec vous le texte qui est pour moi la grande espérance au-delà de ce qui se passe, qui m'attriste, qui nous attriste, qui fait que là où il y a eu des missions qui se développent, ils doivent partir. J'aimerais qu'on lise ensemble Ésaïe 19, les versets 23 à 25. Ésaïe 19, 23 à 25, certains connaissent bien sûr ce texte, mais je veux le lire avec vous. Il fait partie de cette espérance exceptionnelle de ce qui se réalisera un jour. En ce jour-là, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte, et l'Assyrie, c'est l'Irak actuel. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens et les Assyriens rendront un culte à l'Éternel. Vous avez bien entendu? Les Égyptiens et les Irakiens rendront un culte à l'Éternel. En ce jour-là, Israël sera un troisième avec l'Égypte et l'Assyrie à être une bénédiction par toute la terre. Que l'Éternel des armées bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » C'est bouleversant, et c'est la parole de Dieu, et ça se réalisera. C'est une certitude. Ça veut dire que un jour, imaginez, il y a tant d'années que le Moyen-Orient est en feu. Tant d'années que le Moyen-Orient est un grand problème pour les nations. Tant d'années que Jérusalem est un problème pour les Nations Unies. Et il y a ces guerres depuis si longtemps, même guerre entre eux maintenant. Et l'Éternel nous dit, un jour, il y aura un seul peuple entre l'Égypte, entre la Syrie, Israël à être en bénédiction par toute la terre. Vous imaginez cette bénédiction pour toute la terre, ce qui implique conversion de ces peuples et illumination d'Israël. Or, du point de vue historique, on peut dire que le Seigneur est très cohérent dans tout ce qu'il a fait au travers des siècles. Vous voyez, l'Égypte, c'est l'Égypte qui a accueilli Jacob et les descendants de Jacob, a commencé par Joseph, n'est-ce pas? C'est bien sûr, même Abraham est déjà allé là-bas, il n'aurait pas dû y aller, ça on le sait. Mais par contre, quand Jacob envoie ses fils chercher de la nourriture, mais il y a d'abord l'épisode qui précède avec Joseph, ils sont accueillis. Et il faut juste se dire que ils sont descendus, à un moment donné, quand ils sont allés chercher le vieux papa, Jacob, eh bien, ils étaient 70 personnes. Et ils sont remontés à travers le désert, à peu près un peuple estimé à environ 3 millions de personnes. Quand on calcule toutes les tribus avec les soldats de chaque tribu, eh bien, quand on additionne tout cela, ils avaient forcément des épouses, il y avait des enfants aussi. Donc, on peut dire que le peuple d'Israël s'est formé en Égypte avant d'être évidemment dramatiquement persécuté, mais c'est aussi en Égypte, c'est l'Égypte qui a accueilli Joseph, Marie et notre Seigneur Jésus qui était un bébé. C'est là qu'ils ont été accueillis, mis en sécurité, et qu'ils ont pu remonter lorsque l'ange leur a parlé. Donc, Dieu a un projet pour l'Égypte, un projet de conversion. Et puis, la Syrie, c'est Babylone. Et il faut se souvenir que si Nebuchadnezzar a détruit, bien sûr, Jérusalem et emmené en déportation l'élite d'Israël, les souverains sacrificateurs, bien sûr, les rois, etc., il faut se souvenir aussi, selon la parole de Jérémie, que le peuple allait être bien traité. Jérémie avait annoncé en disant, mais allez à Babylone, c'est évidemment une condamnation par le fait que vous avez renié l'Éternel, vous avez adoré des idoles, mais vous serez bien traité. Vous pourrez cultiver des champs, vous pourrez bâtir des maisons. Et donc, c'est aussi par la suite, par exemple, que l'Éternel a réveillé l'esprit de Cyrus en lui disant, va reconstruire le temple de Jérusalem. Va reconstruire le temple de Jérusalem. Je fais une toute petite parenthèse, je vous en ai parlé déjà récemment, mais M. Poutine, qui est juif, qu'on le veuille ou non, sa maman est juive, et le Sanhédrin l'a convoqué au mois d'août l'année passée, le Sanhédrin, à Jérusalem, lui ont montré les maquettes des différentes couches de Jérusalem au travers des siècles, et la maquette du troisième temple, du nouveau temple. Et ils ont dit, le Sanhédrin, M. Poutine, vous êtes notre Cyrus, reconstruisez notre temple. Et on peut voir ça sur Internet, et M. Poutine, il pleure quand il entend ça. Voilà. Donc, je reviens à Babylone. Donc, il y a eu une bénédiction. Dieu s'est servi de ce peuple pour accueillir les déportés, mais aussi pour mandater le roi Cyrus, et puis toute l'histoire de Daniel, etc. Vous voyez ? Donc, il y a une cohérence. Mais, si on va plus profondément encore, ceux qui entourent Israël, ce sont des descendants d'Ismaël. Or, vous vous souvenez, je vous donne les références, je ne peux pas tout lire, mais dans, par exemple, Genèse 17, verset 20, quand Dieu donne une bénédiction pour Isaac, en Genèse 17, verset 20, Abraham, comme bon père, qui a dû chasser Agar et Ismaël, il va dire, mais père, n'as-tu pas aussi une bénédiction pour Ismaël? Et l'Éternel va lui dire, oui, il deviendra une grande nation, 12 princes vont naître de lui. Et vous savez, je suis persuadé que, alors, qu'est-ce qu'on fait de la richesse, bien sûr? Mais alors que ces pays sont très désertiques, je suis persuadé qu'une des grandes bénédictions des descendants d'Ismaël et de ces 12 princes qui sont nés d'Ismaël, c'est que le pétrole a été une bénédiction inimaginable. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'ils font de ces milliards? On est d'accord. Mais qu'est-ce que nous faisons des bénédictions de l'Éternel, n'est-ce pas? On n'est pas là pour juger. Je constate simplement que Dieu leur a donné, dans des pays désertiques, des possibilités de vraiment bien vivre. Or, ce sont des descendants d'Ismaël. Et donc, il y a cette bénédiction que l'Éternel a donnée à Abraham. Et puis, par la suite, lorsque Agar doit fuir, et qu'elle est là dans ce torrent désertique, plus d'eau, plus de nourriture, l'ange de l'Éternel arrive, vous pouvez lire cela en Genèse 21, les versets 18, eh bien, l'ange de l'Éternel va donner encore une bénédiction. Vous voyez, Genèse 21, je vais le lire avec vous. Lève-toi, prends le garçon, saisis-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau et elle alla remplir l'outre d'eau et fit boire le garçon. Dieu fut avec le garçon qui grandit habita dans le désert et devint tireur de l'arc. Il habita dans le désert de Paran et la mer lui procura pour femme une égyptienne. Donc bien sûr, il a d'abord été chasseur, cueilleur, mais voyez, la bénédiction est renouvelée. Et puis on voit aussi une bénédiction dans Genèse 25, verset 9, quand Abraham est décédé, eh bien Ismaël et Isaac sont ensemble pour enterrer leur papa. Donc vous voyez qu'il y a une bénédiction sur Ismaël, une bénédiction qui est là autour d'Israël, et qu'il y a deux peuples en particulier qui feront partie d'un troisième peuple, on croit rêver, parce qu'on parle toujours d'Israël. Et avec raison, on dit toujours Israël, nous aimons et j'aime Israël, j'y suis allé tant de fois, bien sûr, mais il y a cette perspective. Donc, quand vous entendez la prochaine fois terrorisme, islam, Daesh, toutes ces choses, oui, c'est dramatique, d'autant plus que ça nous touche de plus en plus près, mais vous avez comme perspective ce que j'appelle la route de l'espérance. Parce qu'il m'a dit, il y aura une route, comme une route de l'espoir entre l'Égypte, la Syrie et Israël, à être une bénédiction pour toute la terre. Donc, mettez cela, vous voyez, j'ai commencé tout à l'heure en disant, quand on prononce un mot, qu'est-ce qui vient tout de suite dans votre esprit? Eh bien, quand on a ces, hélas, toutes ces nouvelles dramatiques qui tombent les unes après les autres, au lieu d'avoir toujours « rien ne va plus », essayez de relire ces textes chez vous et qu'ils soient là dans votre cœur, dans votre esprit. Ça, c'est l'avenir du Seigneur pour ces nations. Maintenant, on a parlé écologie. Alors, c'est vrai, c'est une réalité qui est là, c'est une réalité qui grandit malgré tout. Il y a des dégâts, il y a des choses, il y a des perspectives, il y a même des perspectives très sombres dans un sens, mais que nous dit la parole de Dieu au sujet de l'écologie? Alors, il y a dit beaucoup de choses dans l'Écriture. D'abord, dans l'Ancien Testament, il y a toute une série de textes où Dieu veut bénir non seulement le peuple, mais il veut bénir les troupeaux, il veut bénir la campagne, il veut bénir les arbres fruitiers. Et c'est vrai que Israël a été le point de jalousie de tous ceux qui entouraient Israël, parce que il y avait une bénédiction. Dieu a créé un monde qu'il aime et qu'il chérit, et donc avec Israël, il voulait pas seulement bénir les personnes et bénir le temple et les célébrations, il voulait bénir vraiment l'ensemble de la terre et des troupeaux et des fruits. Et là, il y a ce texte que j'aime tellement, qu'on trouve dans Ézéchiel, Ézéchiel 38, quand il est question du... Voyons, je me trompe, c'est peut-être 37. Voilà, on va y arriver. Non, pardon, c'est Ézéchiel 47. Voilà. Ézéchiel 47, il est question du trône de Dieu qui est à Jérusalem, et de ce trône coule un fleuve, et ce fleuve, un torrent. Ce torrent, on en a souvent parlé parce qu'il est demandé à Jérémie, en fait, d'entrer dans ce torrent, pour pas seulement d'y mettre les doigts de pied, mais finalement d'aller. Alors, il commence d'y aller, et puis l'eau monte peu à peu, alors qu'il est dans ce torrent, jusqu'au point où il doit commencer de nager. Et sur les bords de ce torrent, il y a des arbres qui portent des fruits. Or, ce torrent coule de Jérusalem, et je crois littéralement que le Seigneur, bien sûr, reviendra au mont des Oliviers, mais que le trône de Dieu sera à Jérusalem. Pour moi, c'est clair, c'est net. Or, il y a ce torrent qui sortira du trône de Dieu, qui descendra dans la gorge de la Araba, qui aujourd'hui est d'une sécheresse invraisemblable, pour aller dans la mer morte. Et c'est impressionnant parce qu'il a dit, vous voyez, dans ce texte que vous pourrez relire chez vous, mais il a dit que cette eau sortira vers le district oriental, au verset 8 du chapitre 47 d'Ézéchiel, descendra dans la Araba et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent arrivera. Il y aura une grande quantité de poissons, car cette eau arrivera là-bas et elles deviendront saines. Il y aura de la vie partout où arrivera le torrent. Alors des pêcheurs s'y tiendront depuis En Gedi jusqu'à En Eglaïm, on étendra les filets, etc. Oui, je suis totalement convaincu que cette mer qui aujourd'hui est la mer, bien sûr, des touristes qui vont s'y baigner, je me suis aussi baigné, c'est formidable, on peut lire en étant assis dans l'eau de la mer morte, mais il ne faut pas en boire. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont bu une tasse de cette eau, et les oiseaux ne peuvent pas traverser la mer parce qu'il y a des vapeurs toxiques qui sont là. Donc c'est une mer qui est vraiment morte. Eh bien, le Seigneur va la restaurer. Et c'est, je dirais, les prémices de la restauration de toute la terre. Ça veut dire qu'un jour, il va nettoyer, purifier, faire revivre cette mer morte. Bien sûr que c'est aussi une parabole spirituelle. Il y a des choses qui sont, parfois des choses qui sont mortes en nous. Il y a, j'espère que ce n'est pas le cas quand même d'Apocalypse quand il a dit « Tu passes pour être vivant et tu es mort ». J'espère pas, mais le Seigneur a, spirituellement parlant, on pourrait dire, il y a ce torrent qui sort du cœur de Dieu aujourd'hui déjà et qui renouvelle en nous ce qui est détruit ou ce qui est sec, ce qui ne pousse plus, ce qui n'est plus verdoyant. Donc on a besoin de cette parole vivante, j'ai envie de dire, de l'Esprit Saint, de cette... Voilà, mais un jour, la mer morte sera renouvelée. Et donc, il y a aussi le torrent de Apocalypse 22, n'est-ce pas ? Il est dit, voilà, on retrouve ce torrent qui coule du cœur de Jérusalem, du trône de Dieu. D'ailleurs, il y avait un cantique où on chantait coulant du cœur de Dieu, ce fleuve d'eau vive. Eh bien, dans Apocalypse 22, où là on est vraiment tout à la fin, on reprend Ézéchiel 47, et donc il y a ce fleuve, et il y a des arbres qui poussent et des feuilles qui servent à la guérison des nations. Et nous sommes là dans le royaume des cieux. Voilà donc, écologie, oui, il y a des choses dramatiques, mais nous, notre vision, ce que nous mettons dans notre cœur et dans notre esprit, c'est la mer morte qui est les prémices, on peut dire, de la restauration de toute la terre. Et nous avons raison, non pas, il ne faut pas exagérer, il y a une certaine écologie qui est même parfois anti-biblique, mais on a raison de prendre soin de nos grenouilles, de nos arbres, de nos oiseaux, on a raison de le faire. Il faut le faire d'une manière juste, et puis aussi prendre soin de tous ceux qui meurent de faim aujourd'hui en Éthiopie, de tous ceux qui, des drames sociaux qui sont là, etc., bien sûr en priorité. Mais j'entends parfois des chrétiens qui disent « Oui, oui, à quoi bon prendre soin des grenouilles qui traversent la route et des crapauds ?» Ben oui, ben on va aussi le faire, voilà, d'une juste manière. Maintenant, le dernier point, toutes ces guerres, tous ces fléaux, qui sont décrits d'ailleurs, mais d'abord ils sont là, mais qui sont décrits dans les fléaux de l'Apocalypse, par exemple en Apocalypse 6, quand il est question de ces cavaliers, vous voyez, qui sèment la mort, qui sèment la famine, qui apportent l'insécurité, qui apportent ces choses. Nous sommes qui enlèvent la paix. On peut dire que nous sommes dans un monde où la paix est en train d'être tirée. On dit qu'il n'y a jamais eu autant de guerres qu'aujourd'hui depuis la dernière guerre mondiale. Il y en a partout. Et on la prépare, et on s'arme. Et donc, et puis il y a l'insécurité de, ben effectivement, des attentats, mais des vols. Chez nous, là où j'habite, il y a deux villas dans un rayon de 30 mètres de chez nous. Elles ont été visitées une, deux fois, et l'autre une fois, il y a quelques mois, vous voyez. Donc, il y a une insécurité qui est là. Or, quand il est question de ces nations qui grondent, de ces nations qui, comme nous dit Zacharie 12, verset 3, il est dit que Jérusalem sera un jour une pierre lourde à soulever pour les nations, j'en ai parlé, mais il a dit que toutes les nations monteront contre Jérusalem pour détruire, et c'est la bataille d'Armageddon. Donc c'est vrai que les nations, si on pense à la Corée du Nord, ils ont maintenant tout ce qu'il faut pour déclencher une guerre nucléaire. C'est inimaginable. Ils ont la bombe atomique, elles ont des fusées capables déjà d'aller jusqu'au Japon, elles sont en train de mettre au point des fusées si puissantes qu'ils pourront mettre des objets en satellite avec même des bombes nucléaires. C'est inimaginable. Et quand on voit de tels tyrans capables de dire, moi je veux en finir avec ma vie, mais je veux en finir aussi avec la Corée du Sud et le Japon et même l'Amérique, voyez. Alors, toutes ces choses, eh bien, j'aimerais vous dire, voilà la réponse de la parole de Dieu. La réponse de la parole de Dieu par rapport à toutes ces choses, c'est s'il y a le cavalier et les cavaliers de la mort, de la destruction, des épidémies, de la paix enlevée, il y a un cavalier qui va revenir en Apocalypse 19, c'est le Seigneur Jésus. Et ce sont des textes qu'il vous faut lire et relire. Il vous faut garder cette espérance de dire, mais moi je connais la suite de l'histoire. Je connais la suite de l'histoire par rapport à l'islam. Je connais la suite de l'histoire par rapport à l'écologie et je connais la suite de l'histoire par rapport à toutes ces guerres et toutes ces nations qui grondent et qui ont le projet de détruire Israël. Il a dit en Apocalypse 19, à partir du verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. » Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa terre se trouvent plusieurs diadèmes. Et d'ailleurs, ne confondez jamais le cavalier blanc d'Apocalypse 6, qui porte aussi une couronne. Mais cette couronne, c'est la couronne Stéphanos, la couronne de la victoire terrestre. C'est la couronne des Jeux Olympiques. Alors que ici, le Seigneur qui revient, il porte une couronne, mais c'est le diadème des rois. Il est le roi des rois. D'ailleurs, cela est dit, il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. C'est le seul qui a ce manteau trempé de sang qui vient de la croix, que nous avons évoqué tout à l'heure en prenant le pain et le vin. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Verset 16, il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et au verset 19, « Je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée. » C'est ce que j'appelle les batailles eschatologiques, les guerres eschatologiques. Je crois littéralement que le Seigneur reviendra en personne avec ses armées célestes. Et ses armées célestes, vous voyez, quand on parle d'Élysée, par exemple, Élysée qui est avec son serviteur, et son serviteur est effrayé parce que les Assyriens, dont j'ai parlé tout à l'heure, sont là pour attaquer le royaume du Nord. Les armées assyriennes sont là avec leurs chars, leurs chevaux, leurs fantassins et tout le monde. Et Élysée est dans une paix profonde, à l'inverse de son serviteur, et dit « Seigneur, ouvre ses yeux ». Et qu'est-ce que le serviteur a vu, ce qu'Élysée voyait aussi? C'est une vraie armée céleste, vous comprenez? Ce n'était pas seulement des anges blancs avec des plumes qui qui chantait des cantiques, c'était une armée. Il y a une armée céleste. Dieu est Dieu, il est créateur. Je pourrais vous donner tant de récits d'anges que j'ai vus dans ma vie, mais aussi, et c'est des anges qui sont, un il était un mécanicien, un autre, je ne vais pas commencer de dire toutes ces choses-là, mais c'est sûr et certain que des anges peuvent arriver en étant armés. C'est sûr, Dieu est Dieu. Donc, je suis convaincu que le jour, il y aura plusieurs batailles finales, plusieurs. Mais cette bataille-là dont il est question dans Apocalypse 19, nous sommes après Apocalypse 13, où il y a eu la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre, c'est-à-dire le faux prophète et l'antichrist qui recevront la puissance du dragon, c'est-à-dire de Satan. Et donc, eux, ils vont malmener la terre et fomenter une guerre inimaginable où il y aura à la fois des esprits diaboliques, des démons, et je crois vous avoir dit si j'ai vu des anges, mais j'ai vu aussi un démon de 2 mètres de haut, je vous en ai parlé une fois, et certaines personnes peuvent dire, oui, bon, vous rêvez, mais quand j'ai partagé ce que j'ai vu dans le sud de la France, ce démon qui a disparu d'ailleurs, un homme qui habite la région ici, brigadier dans l'armée suisse, qui a été conseiller d'Uli Maurer, a vu exactement la même chose quand il rentrait une fois de Berne à minuit dans un tout petit cimetière d'un petit village que je connais bien. Il n'est pas grand, c'est un tout petit village. On roule à 30 à l'heure et là, à minuit aux environs, on voit un homme aussi de 2 mètres de haut à peu près, tout noir, qui sort du cimetière. Il arrête sa voiture, il a pris son arme d'ordonnance. Moi, je n'avais pas d'arme, mais c'est pas drôle, je vous le dis. Hein. Et il est entré, il a visité tombe par tombe, il n'est pas grand, il a des grillages très hauts, il n'a vu personne, c'était la même expérience. Donc, dans cette armée-là, il y aura à la fois un mélange d'armées terrestres et d'armées diaboliques. C'est pourquoi le Seigneur revient, lui aussi, avec son armée céleste, pour ce combat incroyable qui aura lieu sur la terre. Chers amis, voilà pour moi la perspective. Et je termine en disant, en Apocalypse 21, nous sommes déjà dans le royaume des cieux. Le trône de Dieu est installé. La nouvelle Jérusalem est descendue du ciel. Et il est dit ici, les rois de la terre apporteront la gloire et l'honneur des nations à Jérusalem. Vous voyez, verset 24. Apocalypse 21, verset 24, « Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. On y apportera la gloire et l'honneur des nations, et il y a cette guérison des nations au chapitre 22. » Vous imaginez cela? Mettez cela dans votre tête, chers amis. Mettez cela dans votre cœur. Relisez ces textes. Voilà la perspective de Dieu. Oui, les nations grondent. Oui, les nations veulent détruire Israël. Oui, il y a des perspectives même de guerre atomique. Où toutes ces choses sont dans la parole de Dieu. Mais nous marchons sur la route de l'espoir. Cette route où iront un jour les rois de la terre apporter la gloire et l'honneur des nations. Il y a la restauration de la mer morte. Il y a cette perspective glorieuse du Seigneur qui vient avec ses armées. Il y a cette perspective des rois qui apporteront la gloire des nations à Jérusalem. Vous voyez, j'ai parlé du certain et de l'incertain. Il y a dans tous les événements du monde des réalités, mais l'avenir, c'est quand même de l'incertain. Personne ne sait. D'ailleurs, plus personne ne peut aujourd'hui dire qu'est-ce qui va se passer, même dans quelques mois. On ne sait plus. Il y a des choses qui vont très vite, des choses qu'on n'avait pas attendues, qui sont là. On se demande de quoi vraiment demain sera fait. Personne ne peut le dire. Nous sommes là dans l'incertain dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors que les trois textes que je vous ai donnés, ça, ce sont des choses certaines. Elles vont se réaliser. C'est notre espérance, chers amis. Et j'aimerais vraiment vous dire, c'est tellement fondamental, voyez, qu'est-ce qu'est-ce que vous mettez dans votre esprit? Vous voyez, Job, il est dit, Job 3:25, ce que je crains, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. C'est ce qui m'arrive. Donc, dans notre avenir personnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, faisons confiance au Seigneur. Il sait de quoi nous avons besoin. Il sait, il peut préparer pour nous une place même dans un home, vous voyez. Faisons-lui confiance. Mais tout cela fait partie de l'incertain. Alors que je vous ai parlé de ce certain, et là, il nous faut déjà ici-bas être à l'image de Moïse. Vous pouvez lire cela dans Hébreux 11, 27, quand il a dit, Moïse, imaginez, il quitte l'Égypte, il a l'armée du Pharaon à ses trousses, et il a la mer à traverser. Or, il est dit dans Hébreux, Moïse marchait en regardant à l'Éternel. Il regardait à celui qui est invisible. C'est dit, il regardait à celui qui était invisible, et c'est un mot extrêmement fort qui est lié à la persévérance. C'est un mot en grec qui veut dire proskartereo, et on trouve dans ce mot le mot carter, et vous savez que dans un véhicule, une moto ou un tracteur ou une voiture, le carter, c'est ce qui tient l'huile. Et c'est l'objet le plus fort de tous nos véhicules, incassable ou normalement pas, presque indestructible. Eh bien, la persévérance de Moïse qui regardait à l'Éternel avec l'armée à ses trousses et la mer à traverser, il persévérait. Et cette persévérance, ce même mot, on le trouve dans ce que vous vivez ce matin et que je peux vivre avec vous, c'est Actes 2, 42. Il persévérait, c'est le même mot, proskartereo, vous voyez, il faut que ça soit solide, que ça soit du carter. Il persévérait dans la communion fraternelle, dans le partage du pain et du vin, dans l'instruction de la parole de Dieu, dans les prières, dans les cantiques. Chers amis, persévérez. Persévérez dans votre Église. Moi, je la vois se remplir parce que notre monde a faim et soif. Notre monde n'en peut plus. Parce que ce que j'ai partagé avec vous ce matin, notre monde croule de désespoir, croule d'inquiétude. D'inquiétude devant tout ce qui est là, mais ils n'ont pas ces textes, vous comprenez? Ils n'ont pas cette perspective, et ils n'ont même pas la perspective du royaume des cieux, ils n'ont même pas la perspective du salut. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Eh bien, l'Église, le peuple de Dieu est là pour accueillir ces personnes, pour aller les chercher, pour qu'elles trouvent ici l'espérance, la vie, la communion fraternelle, la joie de chanter des cantiques, de prier, d'être avec des personnes comme vous. Chers amis, il est dit au psaume 131, verset 2, « Dans l'inquiétude, dites comme David, mon âme fait silence. Silence, mon âme qui t'inquiète, silence mon âme qui s'inquiète au sujet de l'avenir, silence, et je mets en place la route de l'espoir, la mer morte renouvelée et les nations qui montent à Jérusalem. Soyez bénis, chers amis. Amen. »